CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du mag Grand Rodez en CFM. Et comme un mardi sur deux, nous avons le plaisir de retrouver Myriam Laure, responsable éditoriale du Petit Journal Aveyron. Bonjour Myriam.
Bonjour David.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Bon, alors, comme à chaque fois que tu viens dans notre studio, tu ne viens pas seule, tu es accompagnée de ton invité
surprise.
Mystère, Myriam, oui. Mystère et surprise.
Mystère et surprise, voilà.
Aujourd'hui, nous sommes avec...
Alors aujourd'hui, l'invité surprise est monsieur Jean-Louis Roussel.
Bonjour.
Jean-Louis Roussel qui est...
conseiller général.
Voilà, du département de l'Aveyron, ça je le savais.
Voilà, dans le canton de...
Dit de Rodez-Nord.
De Rodez-Nord.
C'est la partie qui concerne évidemment la commune de Sébazac-en-Corrèze, en intégralité, comme en intégralité la commune d'Onet-Château.
Ouais.
Et un bout de la ville de Rodez, donc la partie qui concerne la gare en propre, qui concerne un petit bout de Saint-Éloi, Saint-Félix, Les Moutiers, Bel Air. Voilà, cette partie-là, dite ruténoise, elle est sur le canton de Rodez-Nord.
Et ce canton, parce qu'on parle pas mal là de redécoupage, vous savez ce qui va devenir ?
C'est une très très bonne question. Alors, évidemment, les annonces vont être faites et vraisemblablement, les choses vont se préciser. Mmh. Pour l'instant, on n'en a pas les détails, mais il est vrai qu'on va chambouler un petit peu la carte dit des cantons dans le département et le redécoupage. On va passer de 46 cantons exactement
46, oui.
À la moitié, c'est-à-dire 23. Donc dans ce cadre-là d'ailleurs avec une réforme du scrutin puisque seront élus désormais au scrutin majoritaire à deux tours deux personnes en même temps qui seront sur le même ticket et ça évidemment c'est pour les élections qui concerneront donc la période de mars 2015 et pour ce qui concerne à proprement parler mon canton puisque on veut une moyenne minimum peu ou prou de 12 000 habitants sur ces nouveaux territoires, sur le canton dit de Rodez-Nord, nous avons la chance d'avoir une population de plus de 14 000, qui concerne évidemment ces trois parties, enfin la partie de la commune de Rodez et les deux autres communes d'Onet et de Sébazac. Il va falloir évidemment, vraisemblablement, ce canton peut être retouché dans le redécoupage pour rendre de la population. Donc
ah d'accord, voilà. Il sera peut-être un peu plus petit.
Plus petit parce qu'il est dense en termes de population et c'est un canton urbain, on ne peut pas en faire l'impasse de le dire ainsi. Après, la question peut se poser sur la commune de Sébazac-en-Corrèze. Restera-t-elle sur ce canton? Est-ce que ce canton va occuper strictement les limites de la commune de Neuchâteau? Est-ce que les bureaux de vote, il y en a deux en l'occurrence, de la ville de Rodez seront toujours inclus dedans? C'est un mystère qui va pas tarder à être levé et normalement, la préfecture va signifier au département de l'Aveyron la proposition du ministère de l'Intérieur. Mmh. Et là-dessus, nous aurons, nous les élus de l'Assemblée départementale, a donné un avis officiel, vraisemblablement en séance plénière, dans les 6 semaines où on aura présenté cette proposition, a donné notre avis sur ce redécoupage. Alors, tout de suite, je vous signale que ce sera un vrai débat, très vif, vraisemblablement, puisqu'on déjà on oppose la problématique des territoires ruraux qui vont se retrouver avec des contours très très larges, et évidemment avec moins de représentants en proximité. Donc c'est le débat déjà qui agite évidemment les uns et les autres, mais avec la carte précise, je crois que les uns et les autres vont nourrir un large débat public localement, et on en aura l'écho très largement par les voix de la radio ou de la presse, mais ça sera un très 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 beau débat. Qui arrive.
Par ailleurs, Jean-Louis, vous êtes aussi, si je ne dis pas de bêtises, au conseil municipal d'Onet-le-Château.
Voilà, donc je suis un double conseiller général, évidemment, sur la partie nord de l'agglomération du Grand Rodez, mais en même temps, et depuis 2001, je suis conseiller municipal de la ville d'Onet-le-Château.
Là aussi, vous parliez de débats concernant le découpage électoral. Les débats, il va y avoir autour des municipales, que ce soit Onet-le-Château ou ailleurs, puisque les prochaines grandes élections, prochain grand rendez-vous électoral, c'est au mois de mars prochain, les élections municipales. On va en parler de votre rôle dans ces élections, Jean-Louis. Oui, enfin peut-être que vous avez décidé de ne pas avoir de rôle d'ailleurs, je vais vous poser la question. Hein ? Mais on va commencer en musique dans ce mag Grand Rodez en CFM avec le Petit Journal Aveyron, avec de la musique que vous avez choisie. Et pour débuter, un artiste aveyronnais.
Oui, Nicolas Blaise, qui travaille et domicilié sur le bassin, qui est né sur le Grand Rodez lui aussi. Nicolas Blaise avec un livre CD qu'il a sorti il y a maintenant plus de 2 ans, La petite culotte communiste, et c'est à proprement parler ce titre-là que je vous propose.
Voilà, et d'ailleurs, tiens, on l'avait pas dit, mais Jean-Louis Roussel, La petite culotte communiste, c'est pas un hasard, hein. C'est parti de gauche, front de gauche.
Alors, effectivement, je suis membre du Parti de Gauche.
Parti de Gauche.
Voilà, donc, c'est... en tant que tel et en représentant donc dit du Front de Gauche.
Très bien. On écoute Nicolas Blaise et on se retrouve dans un instant avec une autre invitée, Jean-Louis Roussel.
Moi, ce que j'aime, c'est les filles, que si tu leur joues toi, Nantes, que si tu cites les ninelles, elles baissent leur petite culotte. Hardy, Hardy, mon petit gars, glisse-moi entre les cuisses. Faisons des petits communistes concevant du prolétariat. Hardy, Hardy, dénude ta faucille. Hardy, Hardy, je déballe mon marteau. Pardi, pardi, j'ai déjà l'acquis. Pardi, pardi, t'es déjà un nom. Celle qui pour une cantine se le cuira ses potemkines. Décalote votre pine, amourette argentine. Qui au moment fatidique, loin de vous couper la chic, crie en espagnol parfait. Sta la victoria siempre, hardi, hardi. Dénuta fossi, hardi, hardi. J'ai des ballons marteaux, pardi, pardi. J'ai déjà l'acquis, pardi, pardi, t'es déjà un nom. Nul besoin d'aller chercher à sa droite pour baiser. Chaque jour, chaque décret, on se fait déjà enculer. La barre à gauche, barre à bâbord, cherchons des sexes de notre bord. Et ma verge restera coite face aux utérus de droite. Hardy, hardy, dénude ta faucille. Hardy, hardy, je déballe mon marteau. Pardi, pardi, j'ai déjà l'acquis. Pardi, pardi, t'es déjà un nom. Aujourd'hui, nos bourses qui gonflent et vos utérus qui ronflent. Dans 9 mois d'entre vos cuisses, renaîtra Vladimir Ilitch. Et qu'au moins dans les alcôves poussent des graines de communistes. Associons nos pénis chauves et vos trompes de gauchistes. Hardy, hardy, dénude ta faucille. Hardy, hardy, je déballe mon marteau. Pardi, pardi, j'ai déjà l'acquis. Pardi, pardi, t'es déjà un nom. Hardy, hardy, dénude ta faucille. Hardy, hardy, je déballe mon marteau. Pardi, pardi, j'ai déjà l'acquis. Pardi, pardi, t'es déjà un nom.
Nicolas Blaise, dans ce Magro descend CFM. Nicolas Blaise, c'était le choix de Jean-Louis Roussel, notre invité Jean-Louis Roussel, conseiller général du département de l'Aveyron et conseiller municipal à la ville de Nesle-Château. Jean-Louis Roussel, j'ai envie de dire, qui vogue sous les couleurs du Parti de Gauche.
Parti de Gauche, oui.
Hein, un petit mot sur Jean-Louis Roussel, c'est fin, c'est très fin. J'aime beaucoup.
On parle de Nicolas Blaise en l'occurrence, qui était très très fin aussi. Hein.
J'ai dit Nicolas Roussel.
Jean-Louis Roussel.
Oh, excuse-moi.
Jean-Louis Roussel.
Toujours très appétissant. Hein, d'être vu comme ça, je le conçois. Non, pour parler de Nicolas Blaise rapidement, je crois qu'on a affaire à un véritable auteur en termes de qualité de parole, et c'est vrai que son travail s'apparente beaucoup à ce qu'on peut apprécier par ailleurs sur le génie et le talent, par exemple, d'un Brassens. Et donc nous avons ce type de jeune avec ce talent monstrueux dans l'Aveyron, et c'est vrai que alors c'est tout un univers, parfois un peu grivois, mais une écriture très sincère, très fine, comme la petite culotte communiste le suggère, mais en même temps sur ce CD il y a des morceaux quand même qui sont assez directs aussi sur d'autres sujets.
Il y a de la poésie dans tout ça.
Absolument, si je vous prends juste le titre Pour ma vie de misère, le premier couplet c'est Pour ma vie de misère, le dos courbé sur la terre, à attendre patiemment que les bons rois soient cléments. Pour les fois où j'ai mendié, implorant la charité, mais n'ai reçu que pour seul écu que les chiens de garde au cul. Et tout ça est très très finement amené sur l'ensemble de ce livre et CD. Mais je sais que Nicolas Blaise travaille à d'autres textes, notre enregistrement. Il travaille aussi beaucoup avec Arnaud Cahence en ce moment sur le territoire aveyronnais. Mais je tenais à saluer évidemment ce type de talent que nous avons dans l'Aveyron.
Voilà qui est bien dit pour un conseiller général qui représente également donc la culture à Aunay-le-Château.
Oui, et je tiens, moi franchement, en tant qu'aveyronnais, je dois saluer l'émergence, la pluralité des talents sur ce département, que ce soit en termes de musique, comme on vient de le voir, mais de texte également, que ce soit en photographie, si on voit l'ouvrage enfin qui est sorti de Jean Cazel aux éditions Au fil du temps, Méprise et faux semblant, qui est un ouvrage remarquable, qui vient juste de sortir, et Jean Cazel étant le papa, le maître des photofolies. Si on voit après d'autres groupes comme un peu 1.2, si on voit l'INAEN, que j'aurais aimé aussi proposer à l'antenne, je dois avouer que c'est un département d'une richesse en termes de création et qui me fait fort plaisir de défendre par ailleurs.
Et vibrer manifestement. Donc nous allons découvrir davantage Jean-Louis Roussel. On va aller faire une petite incursion dans son passé. Expliquez-nous.
Alors vous venez d'où Jean-Louis ? Vous êtes
d'où
où ?
Je suis un natif de Rodez. Je suis un Aveyronais, de famille aveyronnaise. Alors j'en suis fort heureux. pas fiers particulièrement. On est tous de quelque part et de parents par ailleurs. On a tous une histoire, mais c'est vrai que je suis Aveyronnais, né à Rodez. J'ai grandi petite enfance à Rodez. Un peu après, évidemment, sur Aunay-le-Château, la commune que j'habite encore en ce moment. J'ai fait mes armes au collège public d'Aunay-le-Château, au lycée public de Montaille à Rodez. Et après, j'ai fait quelques études de droit à Toulouse. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise de droit international aussi à Montréal. C'est la première fois où je dépassais sur une longue période les frontières et je touchais peut-être à ce parcours d'universel qui devrait à un moment donné nous occuper tous. Et puis, je suis revenu continuer mes études à Montpellier en particulier pour faire un DEA de droit public interne. Par la suite, évidemment, j'ai eu l'occasion de travailler. J'ai fait des petits boulots, des petits jobs d'été comme beaucoup de gens. Et j'ai travaillé aussi un bon moment avant que la politique en tant que telle m'attrape. Je ne vais pas dire me rattrape, mais m'attrape au Géant Casino à Aunay-le-Château. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion, d'une façon ou d'une autre, de rencontrer un peu tout le monde à l'époque, malgré moi, mais avec beaucoup de plaisir dans le cadre professionnel. Et c'est à partir des années 2000, évidemment, que j'ai eu l'occasion, très sincèrement, de pouvoir participer à une aventure électorale sur la commune d'Aunay-le-Château dans le cadre des élections municipales de 2001, avec Fabrice Géniès à l'époque. C'était pas la première aventure électorale. Je dois avouer que je suis peut-être tombé assez tôt, puisque dès 18 ans, j'avais été concerné sur les élections municipales d'Aunay-le-Château en 89. Et j'avais récidivé, en étant sur la liste aussi socialiste et sympathisant, en 95. Et que c'est en 2001, pour la troisième fois, évidemment, avec Fabrice Géniès, que le contexte a permis à ce que nous gagnions majoritairement la commune d'Aunay-le-Château. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai été conseiller municipal, adjoint, qui plus est, à la culture, un sujet qui m'est très sensible et très proche, et au sport, un domaine que j'ai appris à découvrir depuis. Et c'est en 2008 que je suis devenu conseiller général de Rodez Nord. Voilà.
D'accord. Je crois aussi que vous vous intéressez également aux techniques informatiques.
Alors je suis très sensible au mode de communication en règle générale, à la connaissance, à la transmission de la connaissance, à la capacité de rendre accessible au sens large, que ça soit la culture, l'information. Et c'est vrai que depuis 2004, où j'avais travaillé en m'occupant de jeunesse aussi à la commune des Châteaux, j'avais lancé un point information jeunesse, qui est une structure qui accueille l'ensemble des jeunes pour répondre aux questions les plus larges et généralistes que peuvent attendre les jeunes. Je rappelle que depuis 2001, très exactement, le gouvernement avait décrété que l'information en direction des jeunes était une mission de service public, et ça se décline évidemment sur les territoires avec des structures comme l'information jeunesse, donc des points information jeunesse regroupés d'un point de vue départemental. Dans l'Aveyron, c'est le réseau information jeunesse de l'Aveyron qui est structuré dans un cadre régional à travers le CRIJ à Toulouse et au niveau national. Et donc depuis 2004, le point information jeunesse qui a été labellisé Cyberbase depuis est un lieu qui a évidemment répondu à beaucoup de questions sur la fracture numérique et en même temps un lieu public d'accès à tout ce qui est la recherche d'information du point de vue du net et au-delà. Et je suis devenu dans la foulée le président du réseau information jeunesse de l'Aveyron, et je le suis encore. Voilà.
D'accord. Jean-Louis, je reviens sur votre engagement. Vous disiez que vous aviez participé à vos premières élections municipales dès l'âge de 18 ans, donc très très rapidement. Moi aussi, quand j'étais petit, je voulais être président de la République, mais je me suis présenté à aucune élection, ni municipale, ni d'ailleurs. Cet engagement, d'où il vient ?
Alors, cet engagement, je pense qu'il y a un contexte familial qui fait que les questions politiques et citoyennes n'étaient jamais évacuées ou écartées dans le dialogue et au quotidien. Pour une anecdote, un jour, je suis tombé un peu innocemment sur un ouvrage sur le bureau de mon père, qui était Le Capital de Karl Marx. J'étais très jeune. J'ai commencé à parcourir. J'avais une dizaine d'années.
D'accord. Ah oui,
ça peut. J'ai eu la curiosité de parcourir les premières pages. Évidemment, je ne suis pas allé au-delà à cette époque-là, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué, l'idée du capital. Voilà, ça c'est une anecdote, mais par la suite, évidemment, dans le cursus scolaire, j'ai eu la sensibilité auprès de certains enseignants, je vous le reconnaître, de m'intéresser aux questions économiques, sociales et citoyennes, et je crois que certains profs m'ont donné, enseignants m'ont donné le goût de ça, et que c'est certainement par eux, dont certains étaient de la commune d'Aunay-le-Château, que j'ai eu, après, j'ai été sensibilisé, on m'a sollicité pour participer. Alors, j'espérais ne pas être la caution jeune, mais participer à une première élection municipale dès 89. Je sortais aussi d'un engagement, je veux dire, de sympathisant en 1988 sur la première, mon première élection en tant que jeune et citoyen. C'était l'élection présidentielle, et donc François Mitterrand en l'occurrence. Et je crois que, en fait, cette bonne partie de ma conscience citoyenne de jeune, s'est fait dans ce qu'on a appelé la génération Mitterrand, et que j'ai eu cet insigne honneur de pouvoir lui serrer la main lors de son second mandat, quand il était venu inaugurer une masse à Baraqueville. Et je dois avouer que c'est des moments très particuliers quand on rencontre comme ça le personnage politique de ces années en France et dans l'histoire de la Ve République, et de pouvoir lui serrer la main. Donc c'est des moments assez forts. Alors c'est vrai qu'après cette élection-là, évidemment, étant plus ou moins engagé un peu en termes de militants sur cette élection présidentielle, derrière, la proposition m'a été faite de participer aux élections sur la commune de Neuchâtel. Voilà.
Et là, tout s'est enchaîné.
Alors, c'est enchaîné parce que j'ai fait des études de droit derrière, c'est enchaîné parce que je suis resté fidèle à mes valeurs sociales, mes valeurs d'éducation populaire, mes valeurs de partage de richesses. Toutes ces questions-là m'ont toujours interpellé, même pendant mes études de droit, essentiellement. C'est là où on aiguise son point de vue, qu'on apprend sur l'histoire, on apprend sur l'histoire de France, la Révolution française et tout ce qui a découlé, et qu'on s'inscrit évidemment à travers ses valeurs, son vécu, son histoire, son approche du terrain dans évidemment un combat qui est un combat noble, un combat politique, et que, et bon, à un moment donné, on passe du rang de sympathisant à adhérent, un parti politique et militant, puisque c'est la condition sine qua non pour porter ses valeurs. Et c'est vrai qu'à partir de 2001 où j'ai été élu, donc j'ai pris ma carte au Parti Socialiste, et je l'ai quitté en 2008, ayant le sentiment fort que après différentes étapes au Parti Socialiste, où notamment on avait nettoyé sa charte et ses statuts, on avait laissé tomber évidemment les valeurs qui faisaient réellement la force du Parti Socialiste, parti centenaire, notamment sur la question sociale, le fait de ne pas être dépendant, de ne pas subir la loi du marché, notamment le marché économique. Et tout ça m'a fait suggérer qu'effectivement c'est le Parti Socialiste qui tanguait peut-être un peu plus sur sa droite. Et comme le bouchon de flottaison dans l'eau, moi je reste à ma place, sauf que en gardant ses valeurs, c'était quand même un peu plus à gauche que celui du Parti Socialiste. Donc je suis entre parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon.
C'est un peu la loi des grands patrons que vous avez fui en quittant finalement le PS.
Globalement. Les grands patrons, on peut en parler.
Ils ont quand même
C'est surtout que en politique, il y a à un moment donné à présenter des perspectives dans un contexte donné, et que je crois que les valeurs socialistes sont de très bonnes réponses. À l'heure actuelle, nous arrivons à une démocratie qui commence à être sclérosée. La Ve République ne répond plus à la volonté populaire, a pris tellement de champ par rapport aux électeurs de base qu'on arrive à un moment donné où les choses sont bloquées, on est en crise, et même en crise de représentation en direction des élus. Je crois aussi qu'à un moment donné, c'est la loi du marché, de l'économie qui dicte les choix politiques des représentants des Français, et alors que ça serait plutôt à partir du vote populaire que les représentants devraient assumer des choix politiques. Et ça, je le dénonce. Donc c'est pas tant que ça les grands patrons, c'est surtout que c'est pas à l'économie de faire les choix politiques pour le pays, mais c'est aux Français de choisir à travers des différentes propositions électorales à quel moment ils estiment que l'homme politique, sur des propositions concrètes, reprend la main vis-à-vis du monde économique et de la finance et du capital, qu'on soit très clair. Donc là-dessus que je me positionne. Voilà.
Alors revenons donc sur le rassemblement du Front de Gauche. Et la particularité du parti de gauche, expliquez-nous bien la différence.
Quelle différence, oui, parce que c'est pas toujours évident pour ceux qui sont à l'extérieur.
Absolument. C'est peut-être plus facile pour un communiste
de le comprendre.
D'être tout de suite vu, visualisé, enfin compris par rapport aux gens. Mais en fait, le parti communiste français, en même temps que le parti de gauche naissant en 2009, avait réfléchi à se dire qu'il faut qu'on se transcende, c'est-à-dire qu'il y a il fallait absolument rassembler l'ensemble des mouvements, voire des partis, qui à un moment donné portent une autre alternative que celle de simplement réformer le capital, ou c'est-à-dire de vouloir repositionner l'humain d'abord dans des politiques de partage de richesses. Et à ce moment-là, évidemment, à la gauche du PS, toute une mouvance, toute une querelle de mouvements qu'on avait bien connu au moment du traité constitutionnel européen en 2005, qui existait, avait besoin d'être rassemblée. Donc au-delà du Parti communiste français, au-delà du parti de gauche de Mélenchon dont je suis, l'idée était de créer un rassemblement qu'on appelle le Front de gauche et dans lequel à l'heure actuelle se retrouvent 9 partis et 9 mouvements comme les Alternatives, comme République et Socialisme, comme Gauche Anticapitaliste, qui est cette partie qui a quitté le NPA pour rejoindre le Front de gauche, comme Gauche Unitaire, qui est la première force du NPA qui a quitté le NPA en première scission, qui a rejoint le Front de gauche. En fait, c'est un rassemblement de mouvements et de partis qui se transcendent eux-mêmes pour être dans une proposition de rassemblement autour d'un programme que nous on appelle l'Humain d'abord. Voilà, c'est d'accord. Concrètement ça.
Et donc, ce Front de gauche, finalement, est mené par Jean-Luc Mélenchon.
Alors, le Front de gauche a différents représentants. C'est un des représentants pour le Parti de gauche du Front de gauche. Le Parti de gauche a une coprésidente également qui s'appelle Martine Billard, qui fait une des représentantes du Front de gauche. D'accord. Comme au Parti communiste, son premier secrétaire est un des représentants du Parti de gauche. Comme Clémentine Autain est une représentante du Front de gauche. Donc concrètement, il y a plein de représentants du Front de gauche, notamment ses leaders, et Jean-Luc Mélenchon en est un parmi d'autres.
C'est le Magrand des 100 CFM, Jean-Louis Roussel, conseiller général et conseiller municipal de la ville de Neuchâtel et notre invité, l'invité de Myriam Laure, responsable éditoriale de Petit Journal Aveyron. Il est déjà l'heure de passer à notre second titre dans cette émission, second choix signé Jean-Louis Roussel. Alors après Nicolas Blaise l'Aveyronnais, on va passer à
Alexis HK. Bon, c'est un artiste français remarquable qui vient de sortir un nouvel album tout aussi remarquable, qui a une voix, une puissance d'écriture mémorable. Il s'inscrit dans la chanson française actuellement parmi les fleurons. Et sur l'avant-dernier album que j'ai choisi, il y a un titre tout à fait évocateur à mon goût, alors sur un ton à la fois plaisant, humoristique, mais très satirique, sur les choses qu'on apprend. On peut tous apprendre à changer de point de vue, on peut tous apprendre à changer d'attitude, sauf, à mon avis, une catégorie de la population, et c'est ce dont parle le titre de cette chanson.
En CFM.
On peut apprendre aux chimpanzés la langue des sourds-muets, entraîner un bourrin à gagner le quintet. On peut apprendre à l'éléphant à se dresser sur ses pattes, apprendre aux chiens savants à jouer les acrobates. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. On peut apprendre à un taxi à devenir aimable. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable. On peut apprendre à un taulier qui nous sert le pastis à ne pas dire il faut que j'encaisse, j'ai fini mon service. On peut apprendre le respect en se prenant des baffes, des claquades, des taquets, des steaks de doigts dans la face. On peut apprendre l'amour comme une règle d'or pour pardonner les vivants et les morts. On peut apprendre la vertu à toutes les salaces, partager une laitue au lieu de faire des trucs dégueulasses. On peut apprendre à une nonne contre tous ses principes qu'on n'a jamais tué personne en fumant une pipe. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. Comme un porc.
C'est le Mag Grand Rodez en CFM avec le Petit Journal Aveyron et Myriam Laure, son responsable éditorial et son invité aujourd'hui, Jean-Louis Roussel, conseiller général du département de l'Aveyron pour le canton de Rodez Nord.
Nord.
Absolument.
Et conseiller municipal à la ville d'Aunay, le château. On était en train un petit peu d'explorer le Front de gauche et ses composantes. On va poursuivre plus localement. Ici en Aveyron, c'est quoi le paysage? Je parle côté Front de gauche, hein, à gauche du Parti Socialiste, disons.
Qui sont plus exactement les responsables effectifs aujourd'hui, les représentants du Parti de gauche en Aveyron, compte tenu que certains personnages sont sortis du parti pour aller sur une autre liste.
Pour caler le parti de gauche aveyronnais, il est structuré en différents comités. Il y en a un comité à Millau, un à Sainte-Afrique, on en a un à Decazeville, Montbazin, à Villefranche, on en a un sur le Grand Rodez, il y en a un dans le Nord Aveyron. Ces comités-là sont autonomes et propres dans leur action, et en même temps, on est regroupé à travers une coordination départementale localement. Et le PG12, évidemment, a deux co-secrétaires départementaux, toujours paritaires. Chez nous, il y a toujours un homme et une femme qui assurent ces missions-là, et ces deux co-secrétaires animent, mettent le département et ses militants et coordonnent évidemment l'action de ces différents comités. Et en même temps, on est organisé en termes de secrétariat départemental avec des tâches propres à chacun. Et dans ce cadre-là, notamment, c'est là où on retrouve l'action de Guillaume Serriès qui a évidemment la question du développement du parti de gauche et de l'animation en propre de différents comités. Moi, je suis membre aussi du secrétariat départemental et je travaille particulièrement sur la question de unitaire, la question des relations avec les autres forces politiques, et notamment la gauche du PS. Et voilà, donc au-delà de nos fonctions électives, comme Guillaume Serriès, conseiller régional et élu de la ville de Rodez, moi je suis conseiller général, élu de Honnay-Château, mais on retrouve aussi après d'autres élus hein, au parti de gauche, comme Claude Catalan, maire de Montbazin, et ainsi de suite. Mais nos fonctions se résument à ça au sein du parti de gauche. Après, évidemment, au titre d'élu, nous sommes très souvent sollicités, Guillaume et moi, et on en représente évidemment le visage humain et les personnalités.
Justement, tiens, puisque vous parliez des prochaines élections, alors, comment ça va se présenter? Parce que ici, pour vous, par exemple, Jean-Louis Roussel, vous êtes conseiller municipal actuellement à la mairie d'Honnay-le-Château. Est-ce que vous allez être sur la liste de Fabrice Jeuniès, ou est-ce que vous allez décider d'emmener votre propre liste? Vous en êtes où?
Alors, déjà, les élections, c'est fin mars, hein, très clairement. Ouais. Les deux tours sont fin mars. C'est à terme, hein. C'est pas tout de suite.
C'est à terme, ça approche.
Oui, mais vous verrez, les campagnes électorales actives se produiront à partir de janvier, et vraisemblablement mi-janvier. Tout se prépare en amont, et donc on est dans un temps de préparation. Donc, il faut pas s'affoler. Non.
Non, mais c'est bien.
Je pense qu'il y a de l'attente et de l'envie, et les gens ont envie de savoir, donc ça, c'est tout à fait naturel. Sauf qu'on est une période où les choses se préparent en amont. Ce qui est très clair, c'est que moi, membre du parti de gauche et en représentant du Front de gauche, on estime qu'il serait peut-être important de reposer la question de l'austérité dans le cadre de ces élections. Les élections municipales ne sont pas des élections qu'il faut mettre à part avec que des enjeux locaux, donc il faudrait absolument faire fi d'un contexte national et européen qui se pose aujourd'hui. Je ne fais que rappeler qu'il y a 40 millions d'électeurs qui seront concernés par les élections municipales, donc c'est aussi une élection nationale, qu'il y aura 500 000 élus à l'issue des élections municipales en France. Donc c'est une élection nationale, que les budgets des collectivités que représentent les municipalités, c'est le quart en volume du budget de l'État, que les collectivités locales font des emprunts, et que la question de la dette se pose dans ce cadre-là, donc ça ne fuit pas la question des banques, des prêts, du capital, donc c'est aussi une élection nationale à ce titre-là, donc il faut poser le cadre dans les élections locales de quels sont les programmes municipaux qui vont être des programmes anti-austérité localement, en sachant qu'on va retrouver la question qui est nationale des transports, on peut retrouver la question de l'eau, la tarification de l'eau, souvent c'est des régies publiques, ou alors il faudrait les transformer dans ce sens-là. Il y a aussi la question du périscolaire, enfin on sait que historiquement les municipalités ont souvent été des lieux où on a produit des actions et des dispositifs qui sont devenus des dispositifs nationaux. Et nous, dans un contexte de crise comme on nous l'annonce, de politique d'austérité économique que ce gouvernement continue à faire à la suite de Nicolas Sarkozy, de l'ancienne majorité, on estime que localement, il faut aussi être en situation de proposer, ne serait-ce que sur un premier tour, d'autres alternatives en termes de programme et de vision pour le bien-vivre local, en sachant que tout ça n'est que des déclinaisons de problématiques nationales et européennes.
Oui, voilà. Parce que vous le constatez, en effet, comme nous tous, ça ne fonctionne pas, quoi. Il n'y a pas eu de résolution, contrairement à certaines promesses qui avaient été faites peut-être.
C'est très clair qu'il y a une grosse déception sur la politique économique de cet actuel gouvernement et du président de la République. Même on peut se poser des questions sur les valeurs quand on voit l'affaire de la jeune Leonarda qui ne correspondent pas aux valeurs de gauche, des socialistes de base, donc je continue à être et à rester, et du reste de la gauche, enfin des socialistes, des sympathisants, des électeurs. Ça, c'est la question des valeurs qui est une question très importante pour nous, même localement, hein, et pour cause, puisque le maire de Rodez a signé une tribune pour soutenir Emmanuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui sur ces questions-là est en train de mettre à mal le modèle républicain. Mais sur les politiques économiques, il faut absolument qu'on soit en situation de proposer des éléments forts du bien vivre local, remettant l'humain d'abord et en parlant de répartition de richesses, et faire en sorte qu'une municipalité dans ses politiques assure évidemment des choix anti-austéritaires localement. C'est pour ça que le parti de gauche estime qu'il faut éventuellement préparer des programmes, des idées, de mobiliser l'électorat comme Jean-Luc Mélenchon a pu le faire en venant à Rodez, et où une foule mobilisée de 1000 personnes nous a surpris. Mais l'idée, c'est que les gens sont en attente de choix qui permettent de les préserver, de leur donner un cadre de vie, de leur donner des moyens qu'ils n'ont plus actuellement à travers le pouvoir d'achat, le chômage, et ainsi de suite. Et donc, l'idée du Front de Gauche, du PG, c'est se dire, ben voilà, on mobilise l'électorat, on fait des réunions publiques. Moi, à Aulnay-le-Château, j'estime que je ne pourrais pas faire l'économie. Donc, je pense que mi-novembre, je fais une réunion publique en demandant aux citoyens, aux électeurs même du Front de Gauche, de venir s'exprimer sur leurs attentes de choix programmatiques, même localement, anti-austéritaires, pour qu'on puisse faire le point sur les attentes de ces gens-là. Et en fonction, évidemment, il n'est pas forcément exclu qu'on parte pas sur une liste à Aulnay-le-Château. Le tout, c'est évidemment de ne serait-ce qu'au premier tour. Il n'est pas question d'imaginer qu'on fasse le choix de la droite, entre guillemets, que ce soit à Rodez ou à Aulnay sur un second tour. Mais sur un premier tour, il est important qu'un électorat déçu, mécontent, voire en colère, ne puisse pas avoir un relais en termes de propositions autre que ce que pourraient proposer des sortants socialistes. Je m'inscris là-dedans sur Aulnay-le-Château sans forcément dire qu'il y aura une liste parti de gauche. Je souhaiterais même que le Parti communiste s'associe avec moi localement pour faire cette démarche de sollicitation et de mobilisation des castonnettois dans un premier temps. Et après, évidemment, comme l'élection est en mois de mars, les choses pourront évoluer dans un sens ou dans l'autre.
Ça n'est pas le cas partout, justement, cette association du Parti communiste avec le Parti de gauche. On le voit sur Paris.
Oui, et puis à Rodez aussi, le Parti communiste a fait le choix du rassemblement avec le maire sortant socialiste. C'est pas évident, sauf que je considère que même d'un point de vue purement électoral, on peut imaginer que d'avoir des listes Front de gauche à côté de celles des sortants socialistes soit une meilleure façon de faire de belles majorités au second tour, mais avec des axes très clairs en termes de programme et de valeurs, et que ça peut même être à la condition de beaux résultats à gauche. Je dis simplement que pour garder ses valeurs, pour avoir des choses singulières à proposer, comme là le parti de gauche avec l'humain d'abord, un programme Front de gauche, nous avons intérêt à être présents dans cette bataille-là, ne serait-ce qu'en termes de solutions et de choix à faire. Alors évidemment, on ne sera pas partout en situation de faire des listes autonomes. Ce n'est même pas un choix forcément forcé à faire dans toutes les communes et les plus modestes en particulier. Mais sur Rodez, il est évident qu'il y a quelque chose à mettre sur pied pour qu'il y ait une population qui puisse faire un choix en fonction de ses valeurs et de ses attentes. À Aulnay-le-Château, moi je fais qu'une démarche volontaire de vouloir solliciter l'électorat pour évidemment voir dans un premier temps, dans une réunion publique, qu'est-ce qu'attend l'électorat clairement dans le cadre des prochaines élections municipales.
Alors rappelez-nous en deux mots des propositions concrètes qui ont été faites par Jean-Luc Mélenchon puisqu'il est venu il y a peu de temps à Rodez. Et dites-nous également, vous, quel est votre projet personnel, comment vous ressentez votre action politique dans le futur?
Pour être très clair, le programme, il n'a pas changé pour nous, hein, que ce soit de l'élection présidentielle, législative. Le contenu, c'est l'humain d'abord. Donc ce qui est très clair, c'est un autre partage des richesses. Hein. C'est se dire les services publics ont un sens. Les services publics locaux, donc, ont un sens. Que ça, il faut les développer, les préserver. On ne peut pas entendre des maires socialistes bons gestionnaires dire « Nous allons faire en sorte que le fonctionnement de ces services publics soit cadré, bien géré. »
Vous avez les moyens pour ça? Vous les idées
Oui, mais les moyens...
Mettre l'humain d'abord et
l'humain d'abord, c'est par exemple les services publics locaux qui fonctionnent en direction des gens. C'est des qualités sur le périscolaire, en direction du cadre éducatif. C'est la politique de l'eau, par exemple. Oui. Considérer que si on a régie le traitement de l'eau autant que sa diffusion, on peut décider de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est faire des choix très clairs en termes de choix politiques, et après de réorienter éventuellement certaines dépenses, mais en même temps de se dire, si nous on préserve pas de l'austérité dans un cadre de propositions aussi concrètes localement, ça ne marche pas. Après, évidemment, le contexte est national. Je le disais au début, les problématiques locales sont aussi nationales. Tant qu'on sera pas dans un meilleur partage de richesses avec une vraie réforme fiscale, notamment faire en sorte que les plus hauts revenus, les plus riches continuent à gagner en revenus, alors que les plus faibles sont en train d'être paupérisés, puisqu'on voit qu'on va avoir une augmentation de la TVA au début de l'année, c'est une catastrophe absolue en direction des classes populaires et moyennes dans cette logique-là. Donc une réforme fiscale qui rééquilibre la part de solidarité qu'on exige à la fois des grands patrons à travers leurs revenus, à la fois dans le cadre de la répartition de la rémunération dans les entreprises, à la fois dans les fonds spéculatifs, cette finance sans nom qui continue à vouloir faire de l'argent en compressant davantage, que ce soit les finances publiques, qui est un scandale en soi, et que ce soit après en termes de revenus de pouvoir d'achat et de non-développement de l'emploi, alors qu'on sait qu'il y a des gisements à travers la transition énergétique. Voilà des choses sur lesquelles en parallèle on va aussi batailler en termes de propositions, puisque les élections européennes s'enchaîneront 6 semaines après les élections municipales, et on sait que c'est dans ce contexte-là qu'il faut changer les choses. Donc là-dessus, évidemment, l'un se touche. Après, en termes de gestion des finances, vous savez qu'il y a des moyens très concrets. À partir du moment où on n'est pas déclaré en faillite par la préfecture, il n'y a pas de raison non plus de subir la baisse des ressources de l'État à travers les dotations qui, on l'annonce pour l'année prochaine, c'est 1,5 milliard de moins dans les caisses des collectivités locales, donc mairies, interco et départements.
C'est un désengagement de l'État.
Désengagement de l'État, mais en même temps, la volonté de faire participer à soi-disant bataille de la réduction des déficits publics les collectivités locales qui, elles, ont la plus grande partie des outils, des bâtiments, des équipements et des services publics à assurer sur le terrain. C'est absolument scandaleux que l'État décide que même le contribuable local, qui est déjà un contribuable national ou régional, soit obligé, à un moment donné, de trinquer d'une façon ou d'une autre à travers la qualité des services qui lui sont proposés localement, autant que sa feuille d'impôt ou autant à travers la TVA, ce qu'il paye en achetant pour consommer.
Un dernier mot avant de se quitter. Moi, je suis pas Aveyronnais, je suis ici depuis 2-3 ans, mais bon, j'avais une idée, une image de l'Aveyron, et on parle souvent de l'Aveyron comme un peu une terre d'engagement politique. En tous les cas, il y a des décennies, des gens qui se laissent pas faire, qui mènent des combats, même un peu en avance par rapport à d'autres. Bah moi, je suis là depuis 3 ans. Je suis un peu déçu, monsieur Jean-Louis Roussel. Je trouve qu'ils,
pourquoi
je sais pas, ils sont pas aussi protestataires, ils mènent pas autant d'action que ce que j'avais gardé en mémoire.
Les choses avancent, monsieur Dumont, en ce sens-là. Il est évidemment que nous, on prend de la révolution citoyenne. Donc, citoyenne, on est, puisqu'on va être engagé dans les élections, on l'est toujours, et en même temps dans le mouvement social, parce que la réforme des retraites, par exemple, ne nous plaît pas. Mais il est vrai que, on arrive à un moment donné avec la déception que peut avoir procuré ce gouvernement de gauche et ce président. On va arriver certainement à un moment donné à une mobilisation beaucoup plus large et évidemment à des conséquences qui seront certainement plus révolutionnaires d'un point de vue citoyen. Restez sur place, vous en serez un contenteur, j'imagine.
Nous allons observer l'évolution des opérations.
Merci beaucoup Jean-Louis Roussel, conseiller général et conseiller municipal de la ville de Neuchâtel, qui était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Myriam, responsable éditoriale du Petit Journal Aveyron. Un numéro actuellement dans les kiosques et différents points de vente un petit peu partout sur le Grand Rodez.
Voilà, le prochain sortira aux environs du 12 ou 13 novembre.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Merci
en
à Jean-Louis.
Au revoir.
C'est fait.